Ça y est, la Coupe du Monde commence et pendant cette Coupe du Monde, les meilleurs joueurs des équipes nationales de football vont s'affronter dans les stades d'Amérique du Nord. Sauf que, au-delà de ces 90 minutes, d'autres matchs, un peu plus discrets mais tout aussi symboliques, vont se jouer parce que le football devient plus que jamais un terrain géopolitique.
Comment vont se comporter les joueurs iraniens alors qu'un des pays hôtes les bombardait encore à quelques heures du coup d'envoi ? Pourquoi la Chine et l'Inde, pourtant de grandes puissances démographiques, sont-elles absentes du foot ? Et comment les pays du Golfe ont mis la main sur tout un pan de ce sport historiquement si occidental ?
C'est l'ordre du monde.
C'est parti ! Salut Annalisa.
Salut Mathieu.
Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial hein, de l'ordre du monde parce que on voulait absolument parler de géopolitique et de foot, forcément.
Oui, évidemment, et on a évidemment pris un spécialiste parce que nous on est spécialiste en géopolitique, en économie, mais pas vraiment.
Mais lui il a la double casquette et en oui. Plus c'est vraiment un des meilleurs sur ce sujet, on est vraiment très heureux de vous retrouver. Jean-Baptiste Guégan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, comme on le disait, spécialiste en géopolitique du sport. Vous intervenez à Sciences Po, vous avez écrit, entre autres, « La guerre du sport » avec Lucas Aubin, aux éditions Talendier. Vous êtes l'homme de la situation.
Oui, pour nous aider à comprendre tout ce qui se joue autour de cette Coupe du Monde. Évidemment, les Coupes du Monde, les grandes compétitions sportives sont toujours très géopolitiques. Celle-là, elle l'est peut-être un peu plus que les autres, parce que déjà, il y a deux pays en guerre et que les États-Unis, pays organisateur, sont en guerre avec un des pays qui va participer, l'Iran. Est-ce que c'est inédit ?
Alors c'est inédit parce que d'abord c'est une Coupe du Monde de la démesure, c'est 48 équipes qui sont présentes, 104 matchs, c'est une Coupe du Monde dans le pays de Donald Trump, dans un contexte où le football pour lui c'est l'occasion de mettre en scène sa politique, c'est aussi l'occasion avec 48 équipes d'avoir un concentré de ce que le monde peut avoir comme problème, rassemblés sur un seul et même pays, enfin en tout cas trois pays parce que c'est Canada, États-Unis et Mexique, mais c'est 80% des matchs qui vont avoir lieu aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, toutes les fractures du monde, tous les problèmes de l'époque vont se retrouver littéralement autour de cette Coupe du Monde, sous la bienveillance hein, de Don Gianni Infantino, le président de la FIFA. C'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez comprendre aujourd'hui le monde, il faut regarder cette Coupe du Monde, il faut regarder ces matchs, le sort réservé à l'Afrique par exemple, l'usage que va en faire Donald Trump. La géopolitique aujourd'hui, le meilleur moyen de la comprendre, c'est de passer par le football, parce que c'est le langage universel et tous les rapports de force, les relations internationales s'y retrouvent.
Les Iraniens, on a senti que Donald Trump, à un moment, avait peut-être essayé de tout faire pour que l'Iran n'y participe pas. Est-ce vraiment le cas ? Ou est-ce que, et on en parle régulièrement, ou est-ce que l'empereur Trump, parce qu'il se prend comme un empereur, hein, il est en train de construire des arènes de combat de MMA devant l'Arc de Triomphe, qui va être monumental, c'est l'empereur Trump. Est-ce que l'empereur Trump, justement, veut fédérer ce pays, ce monde qui se brutalise, et même l'Iran y a sa place ?
Ce que Trump veut, Trump l'obtient et il a essayé jusqu'au bout de faire partir l'Iran qui était pourtant sportivement qualifié. C'est pour ça que très opportunément on a parlé de l'Italie notamment qui pouvait revenir, on a parlé des Émirats Arabes Unis. L'idée c'était de se débarrasser d'un problème et finalement du belligérant contre lequel les États-Unis aujourd'hui sont en conflit, c'est-à-dire l'Iran. C'est la première fois qu'un pays organisateur est en conflit ouvert et armé avec un autre acteur qui vient sur son sol. C'est la première fois aussi qu'un pays organisateur assume de ne pas pouvoir assurer la sécurité d'une délégation. Ça s'est jamais vu.
Alors, on avait déjà c'est Trump qui l'avait dit en personne. Hein. Alors, il avait dit « ils sont les bienvenus, mais je ne peux pas garantir leur sécurité exactement. Sur mon sol ».
Le message est édifiant. Et puis derrière, vous avez Marco Rubio qui expliquait très poliment « le problème, ce ne sont pas les joueurs. Le problème, c'est la délégation. C'est les services de renseignement et de sécurité qui vont évidemment accompagner la sélection. Mais ça pose un souci. Il y a un souci d'équité. Aujourd'hui, l'Iran est obligé de se reporter sur le théâtre mexicain. Donc, ils vont avoir leur camp de base au Mexique. Ils ne pourront pas, contrairement aux autres équipes, découvrir les terrains 24 heures avant. Donc on est sur un vrai problème. Et puis, en réalité, la principale difficulté, c'est les joueurs. Imaginez la pression. D'un côté, vous avez un régime autoritaire iranien. Et de l'autre côté, vous avez la pression de l'administration Trump. Bon courage pour disputer une Coupe du Monde.
Il y a quelque chose qui m'a surpris. Je comprends pourquoi Donald Trump n'a pas envie d'avoir les Iraniens sur son territoire. J'ai plus de mal à comprendre, en revanche, pourquoi les Iraniens décident quand même de participer. C'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer, par exemple, les Ukrainiens qui décident de participer à une compétition organisée sur le sol russe. Pourquoi les Iraniens décident quand même d'y aller ?
Et je pense que si ça avait été le cas, les Ukrainiens y seraient allés pour une autre raison. Les absents ont toujours tort, et quand vous êtes présent, vous pouvez faire valoir votre discours, votre narratif. En l'occurrence, pour le régime iranien, c'est une occasion unique. Vous avez une sélection qui est capable de franchir le premier tour. Vous avez donc la possibilité, pendant 3 matchs, et même plus, de porter un discours, de montrer que vous êtes résilient, vous êtes présent malgré la guerre, malgré les attaques, et il y aura des attaques pendant cette Coupe du Monde, ça ne va pas s'arrêter. Sauf s'il y a un accord, la fameuse 38e annonce d'un accord par Donald Trump. Ce qui va se passer, c'est que le régime iranien va se servir de ça. Et si sportivement, ça fonctionne, le message, il est extraordinaire. Regardez, on est capable d'aller chez l'adversaire, gagner chez lui, et en plus, d'en tirer un bénéfice politique en interne et en externe. Donc de toute manière, la présence iranienne, elle était finalement attendue, j'ai envie de dire presque évidente. C'est pour ça que Donald Trump a tout fait pour qu'il n'y soit pas.
C'est un instrument de puissance de la part des Iraniens.
C'est un instrument de puissance et surtout un instrument de communication. Le football, c'est une arme de diffusion massive. C'est-à-dire que vous êtes capable de toucher la totalité de la planète avec ça. Avec un message très simple. Quand on regarde un match de foot, on a tendance à débrancher son cerveau, il faut être honnête. Et quand on regarde finalement ce qu'on est capable de véhiculer comme idée, ça passe simplement. On a quand même eu, avec l'administration Trump, un arbitre somalien qui est arrivé sur le territoire, qui a été renvoyé uniquement parce qu'il était somalien. On parle du meilleur arbitre d'Afrique. On a un joueur irakien, qui est celui qui a qualifié la sélection irakienne, qui a fait 7 heures en détention face à des douaniers. Imaginons la même chose avec Kylian Mbappé. Le scandale international que ça aurait été. On a une partie des sélections africaines qui ont été privées de leurs supporters simplement parce qu'ils étaient africains.
Il y a un aspect, moi, qui m'a aussi assez fasciné, c'est ce choix, donc, finalement, de s'installer à Tijuana. Donc, cette équipe d'Iran, elle va à Tijuana. Et Tijuana, là, sur le plan géopolitique aussi, c'est peut-être la ville et le pays, le Mexique, qui symbolise toutes les tensions avec les États-Unis, que ce soit sur l'immigration, la drogue, le fentanyl, etc. Et là, vous avez l'équipe locale qui communique sur les réseaux en disant « Bon, bah, Tijuana, ville d'accueil, d'hospitalité, etc. » Mais sur le plan géopolitique, il y a une lecture très intéressante de les voir poser leurs valises là-bas.
Alors, il y a une double lecture. La première, c'est la présidente mexicaine qui a très opportunément récupéré la situation en disant « Regardez, nous, on peut les accueillir. » C'est-à-dire que nous, on est une terre d'accueil, contrairement aux voisins du Nord, avec lesquels on a quelques problèmes. La deuxième, c'est qu'en termes de marketing territorial, bah, Tijuana, c'est comme Ciudad Juárez, hein. On est sur des villes qui sont accompagnées d'une réputation sulfureuse. Et là, en se présentant finalement presque comme une ville sanctuaire, on est sur un moment assez particulier, c'est-à-dire que vous transformez l'image de la ville. Et avec la puissance de la Coupe du Monde, Tijuana va être associé à quelque chose de positif. Surtout si la sélection iranienne performe. Et puis derrière, vous reprenez le lead. À partir du moment où vous avez l'initiative en géopolitique, c'est vous qui décidez. Et on a bien vu l'embarras des États-Unis dire « bah d'accord, donc ils vont faire les allers-retours ». Et c'est tout, l'administration Trump n'a pas de possibilité. Après, on verra ce qui se passe. Si l'Iran passe les 16e de finale et arrive en 8e, ils ont une chance de tomber sur les États-Unis.
Oui, là,
et là, je veux voir ce match.
On le regardera de près si ça arrive. En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites sur l'aspect communicationnel, informationnel du foot. Et c'est vrai qu'à chaque fois, une Coupe du Monde est évidemment un événement planétaire. Celle-là, elle est un peu plus grande que les autres. Je vous donne quelques chiffres pour avoir une idée. On parle de 6 millions de spectateurs attendus dans 16 villes, avec 20 à 30 millions de touristes attendu, et Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA, promet 104 Super Bowls avec des retombées de l'ordre de 11 milliards de dollars pour la FIFA. Effectivement, c'est immense, c'est une chance pour Donald Trump aussi d'avoir ce maxi-événement, d'avoir tous les projecteurs braqués sur lui. C'est une chance de répéter quelle est sa politique étrangère. Vous parliez de l'arbitre somalien, du joueur irakien. Est-ce qu'il va aller plus loin que ça ?
Alors, ce mondial, pour Donald Trump, c'est une plateforme. C'est-à-dire que le sort sportif, les retombées économiques et financières, c'est pas du tout son sujet. Lui, il va d'abord parler à sa base, MAGA, donc ceux qui vont voter pour lui pour les prochaines midterms en novembre. Il va aussi s'adresser au reste des Américains. Regardez, on est capable d'organiser cette Coupe du Monde, donc le fameux America Great Again. Ça présage aussi de cette fameuse décennie du sport américain, parce que les États-Unis vont être le seul pays à accueillir tous les grands événements sportifs sur les 10 ans qui arrivent. Donc je reviendrai ici, je pense.
Et avec plaisir, parce qu'après, il y a les JO.
Alors, il y a les Jeux, justement, de Los Angeles en 2028. Ce sera juste avant la présidentielle. Imaginez le niveau de tension dans un bastion démocrate en Californie. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que cette Coupe du Monde, elle va surtout permettre de mettre en scène sa politique nationale. C'est-à-dire que si vous voulez montrer par l'exemple que vous êtes intransigeant sur les frontières, bah vous les fermez, vous faites des exemples. C'est exactement ce qu'il fait. Il fait de la communication politique à destination des siens et il envoie un message au monde. Regardez, la Somalie, je ne vous respecte pas. Votre arbitre, même s'il est validé par la FIFA, il ne rentre pas. C'est-à-dire que ici, c'est un peu ce qu'on avait vu avec les Britanniques, le take back control. Je reprends le contrôle des frontières et je le mets en scène. Quand bien même, derrière, ils vont avoir un problème. C'est que le nombre de touristes sera beaucoup moins élevé qu'attendu. Les retombées financières ne seront pas à la hauteur pour une raison très simple. Regardez le coût. La FIFA, en plus, n'a pas forcément tout dit sur les sommes qui étaient exigées pour les villes hautes. Derrière, on aura une manifestation qui, aux États-Unis, ne sera probablement pas rentable et sera structurellement déficitaire. Et puis après, vous avez la communication qui va être gentiment mise en scène par Gianni Infantino.
Ça, c'est un autre... Alors justement, ça c'est un personnage, peut-être un mot sur ce personnage très important, Gianni Infantino, qui joue un rôle qui fait partie du premier cercle peut-être de Donald Trump. Ça aussi c'est un élément géopolitique, cette relation entre Donald Trump et le président de la FIFA.
Quand vous êtes le président de la FIFA, vous êtes un des personnages les plus importants de ce monde. Vous avez un statut de chef d'État, même si vous ne l'avez pas. Vous êtes reçu comme tel et on vous respecte parce que vous avez dans les mains le premier sport mondial et la deuxième manifestation mondiale avec les Jeux Olympiques. Après, il y a la dimension biographique. Gianni Infantino, c'est quelqu'un qui est arrivé là, j'en veux dire, par effraction. S'il n'y a pas le scandale de la FIFA, jamais il est président de la FIFA. Et donc lui, il est en train de vivre son rêve américain. Et puis, il y a la fameuse bromance avec Donald Trump, cette mise en scène de cette amitié complètement factice.
Avec le prix de la FIFA, le prix de la paix.
Le prix de la paix, c'est extraordinaire.
Oui. Imaginez, il a décerné quand Donald Trump était obsédé par le prix Nobel de la paix.
48 heures avant, le COMEX de la FIFA ne savait pas que ce prix existait. Donc, c'est quelque chose qui est descendu de la part de Gianni Infantino, qui est descendu tout seul. Et ça dit aussi une chose. Qui a le pouvoir? C'est Donald Trump. Il a le pouvoir politique, il a le pouvoir économique, il a le pouvoir symbolique. Qui n'a pas le pouvoir? C'est Gianni Infantino. Pour se rapprocher des puissants, il faut être un courtisan. Il faut être capable aussi de mettre en place l'impression justement de cette amitié. Et vous savez que pour orienter Donald Trump, il faut le flatter, jouer sur la flagornerie la plus outrancière et en faire des tonnes. C'est exactement ce qu'il fait. Et derrière, c'est le président de la FIFA et le ressortissant étranger qui a été le plus dans le bureau ovale sur les deux dernières années. Ça positionne quand même quelqu'un. Il sait ce qu'il a à gagner. Et donc cette bromance en réalité est factice, on est sur une relation asymétrique, il y en a un qui a le pouvoir et l'autre qui se rapproche des puissants, vous êtes ceux que vous fréquentez, ça Don Gianni l'a très bien compris, et aujourd'hui ça donne cette image assez délétère de la FIFA, qui ne fait rien pour ses arbitres, pour les délégations, et qui finalement subit l'événement. On n'a jamais eu un tel niveau de soumission d'une instance internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Il y a un côté asymétrique aussi entre les trois pays qui accueillent cette Coupe du Monde, entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. On en parlait, Mathieu, toi et moi, cette semaine en préparant cet épisode. On se disait, on a l'impression que les États-Unis éclipsent tout le monde. Donc on sait en revanche que chaque pays s'est battu pour avoir sa cérémonie d'ouverture. C'est quand même assez inédit d'avoir trois... Vous me dites si je me trompe, mais je ne suis pas sûre d'avoir déjà vu autant de cérémonies d'ouverture dans chaque pays. Ça reflète aussi les tensions géopolitiques qu'il y a en ce moment entre Marc Carney, Donald Trump, Claudia Sheinbaum. C'est le reflet de quelque chose de politique.
Alors c'est le reflet d'une candidature qui est déjà au départ brinque-ballante. C'est-à-dire que si les États-Unis y vont, pour être sûr de l'avoir et pour éviter que ce soit le fait américain, il faut les deux pays, un au nord, un au sud, et comme ça on a un beau discours, on a un beau récit. Ça fonctionne, sauf qu'à ce moment-là, c'est le premier mandat de Trump. Quand en 2018, on accorde la Coupe du Monde à ce trio improbable, on n'a pas encore le niveau de tension actuel. Pour le deuxième mandat Trump, on a quand même un président américain qui a menacé de bombarder le Mexique et qui a gentiment proposé au Canada de devenir le 51e État américain. Sans compter toutes les ingérences politiques dans les deux camps. Là, aujourd'hui, avoir trois cérémonies d'ouverture, ça dit aussi quelque chose. Laissez-nous avoir une place dans cet événement et surtout, nous sommes obligés de lutter pied à pied, non pas pour coordonner ce magnifique événement, mais au contraire parce que vous avez une présidence américaine qui est écrasante, une administration qui ne respecte rien. Et vous avez un souci, c'est qu'on est très loin de l'idée, par exemple, de l'accord AUMC, accord États-Unis, Canada, Mexique. On est vraiment non pas sur une logique de libre-échange qui renvoie à l'ALENA d'avant, l'accord de libre-échange nord-américain. On est sur, au contraire, une lutte pied à pied avec un leader régional qui a décidé qu'il écraserait tous les autres et on est dans une logique de puissance. Donald Trump, c'est ça. C'est le pouvoir et le pouvoir, il écrase. Il négocie pas. On est dans la mise en scène typique de Trump, hein, ce qu'on avait avec The Apprentice, sa série. C'est-à-dire le « you're fired », je décide. C'est exactement ce qu'il fait.
Voilà, c'est la vie réelle.
C'est la vie réelle, c'est le problème. C'est qu'il a un vrai pouvoir sur, les, sur le destin de cette Coupe du Monde, des joueurs et de tout l'écosystème qui est autour.
On va se projeter sur les futures Coupes du Monde aussi. 2034, ça va être l'Arabie Saoudite. Ma question un peu de béotien, mais est-ce que les pays du Golfe, c'est ça l'avenir du football ?
Alors, les pays du Golfe ont littéralement changé l'organisation et les rapports de force du sport mondial. Le centre de gravité du football s'est déplacé. On le voit par exemple avec le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe, et c'est formidable. Ici, c'est Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est que sans le Qatar, il n'y serait pas arrivé. Quand on voit Manchester City, c'est pareil, c'est les Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite a investi des sommes colossales qui se comptent en dizaines de milliards d'euros sur le sport, mais surtout sur le football. La dernière Coupe du Monde des clubs, elle était entièrement financée par les Saoudiens. C'est 2 milliards de dollars donnés comme ça. Bon, c'est un ticket d'entrée. Hein. Aujourd'hui, ils ont changé les rapports de force. Avant, personne ne se serait imaginé un quart de seconde qu'on pourrait aller jouer dans le golf. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir finalement de financement de cette nature-là capable de répondre aux besoins des grands événements sportifs sans passer par l'argent du golf. Ça se voit par exemple sur l'e-sport. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a dépensé 10 fois plus dans l'e-sport que dans tous les autres domaines. Aujourd'hui, regardez le nombre d'acteurs qui sont financés directement ou indirectement par le golf. Soit par le sponsoring, c'est Qatar Airways, qui est le premier sponsor, soit par les droits télé, c'est beIN Sports, qui reste l'un des premiers catalogues de droits. J'en passe, c'est des meilleurs. Ce qu'on voit avec le golf aujourd'hui, c'est qu'ils ont changé de rapport de force. Avec un problème, c'est que la situation dans le golf a changé. Le mirage de leur sécurité, finalement, a été balayé par les missiles iraniens. Vous êtes aujourd'hui face à l'obligation de réarmer finalement dans le Golfe, ça va poser des questions. Est-ce qu'on ne va pas avoir finalement un changement de destination des budgets ? On a vu que l'Arabie Saoudite de MBS avait modifié finalement ses plans. Fini le projet de Line.
Ils vont devoir rééquilibrer leur budget et peut-être mettre un peu moins sur tout ce qui est soft power. Et...
Exactement, ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'image, c'est bien gentil, mais aujourd'hui, vous avez un vrai problème de sécurité nationale. On a quand même des missiles qui visaient la tour Burj Khalifa aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Il y a un moment donné...
Le Qatar qui va mettre plusieurs années juste pour remettre en ordre de marche la plus grande usine au monde de GNL.
Qu'ils sont partenaires justement avec l'Iran sur le sujet.
Ouais.
L'Iran a aussi expliqué avec ses missiles, attention, en quelques frappes, on est capable d'anéantir ce que vous avez construit en 25 ans. Et c'est justement là où le sport va avoir un atout. Il y a deux possibilités, hein. C'est simple. Soit ils restreignent leurs investissements dans ce qu'on appelait communément le soft power, et donc dans la construction d'une image internationale attractive, ou de l'autre côté, ils réinvestissent au contraire massivement pour montrer que ça ne les affecte pas et qu'on peut toujours venir quand on est entrepreneur, investisseur, touriste et talent.
Alors, avant la Coupe du Monde de 2034, il y a celle de 2030, là aussi organisée par un trio, par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. On espère un trio un peu moins conflictuel que celui de cette Coupe du Monde. Est-ce que ça veut dire qu'enfin les institutions sportives commencent à reconnaître que le continent africain existe?
Alors c'est déjà une très bonne nouvelle justement que l'Afrique y soit. Là pour 2026 on a 10 sélections africaines qui sont présentes. Structurellement l'Afrique a toujours été sous-représentée, donc c'est une excellente nouvelle. Que ce soit le Maroc, ça correspond à sa politique de développement depuis 20 ans et surtout sur la dernière décennie, elle est fondée sur le football et le football est une sorte de levier d'amorçage. C'est une manière d'emmener le pays. C'est-à-dire qu'on va utiliser le football pour drainer tout le reste, aménagement du territoire, développement économique, etc. Donc ça, ça fonctionne. On l'a vu avec la CAN, si on accepte les 15 minutes de la finale qui ont été un chaos absolu, le reste a été une réussite. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent prétendre en dehors du Maroc ? Alors il y a le Rwanda, qui a une politique de développement sur le sport qui est intéressante, et j'imagine qu'on en parlera. L'Afrique du Sud, qui va se positionner sur Cape Town, donc pour les Jeux Olympiques d'été 2030, mais ça va être compliqué parce que la situation politique locale est loin d'être stable, et puis il y a d'autres acteurs qui sont plutôt en retrait. La Côte d'Ivoire, qui avait fait énormément, a du mal à convertir. Vous avez le Sénégal, qui va jouer en septembre les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui va organiser l'événement qui doit préfigurer l'arrivée des Jeux Olympiques d'été sur le continent. Aujourd'hui, c'est compliqué, vu la situation de tension entre le Premier ministre, l'ancien Premier ministre et le président en place. On est sur une situation aujourd'hui où l'Afrique n'a jamais été aussi visible, mais c'est aussi parce que c'est le continent du sport de demain. Où seront les athlètes demain ? En Afrique ? où seront les gisements de talent en Afrique, où seront les, j'ai envie de dire, les viewers et les followers. Ils seront en Afrique. La jeunesse du monde aujourd'hui est africaine.
C'est peut-être le moment de dire un mot sur le Rwanda. Vous l'avez dit, c'est très intéressant la politique du Rwanda. On a tous vu pendant les matchs les sponsoring visite Rwanda sur le maillot des joueurs. Pourquoi cette stratégie si offensive, ce n'est pas négatif, mais pourquoi si offensive du Rwanda dans le sponsoring?
La grande leçon qu'a tiré le Rwanda de ce qu'avait fait le Qatar, c'est que pour exister et être visible, l'un des leviers majeurs, c'est le sport. Ils ont lancé avec le programme Visiteur Rwanda le sponsoring sur la Manche d'abord d'Arsenal, ensuite ils sont allés sur le PSG, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich, et ils ont vu tout de suite l'impact. Dès la première année, on a eu par rapport à l'investissement un x6 en termes de retombées. Donc c'est rentable. Et puis l'autre intérêt, c'est quand vous ciblez des clubs qui sont dans des capitales, qui vont aller chercher des CSP+, parce qu'aujourd'hui, aller voir des matchs de Ligue des Champions pour le PSG, il faut avoir un certain budget. Bah, vous allez attirer un tourisme premium sur le modèle de ce que fait le Costa Rica, par exemple. Donc, vous savez que vous venez avec des touristes qui ont un fort pouvoir d'achat, vous évitez le tourisme de masse, vous vous développez comme ça. Et quand vous êtes un régime autoritaire qui doit faire oublier la politique de Paul Kagame depuis plus de 25 ans et le souvenir du génocide, bah, avoir l'outil football pour emballer finalement la proposition rwandaise, ça fonctionne. Et puis, il y a un vrai levier aussi derrière. Le Rwanda est devenu un des points de passage obligés du sport mondial parce qu'il accueille d'abord l'Afrique, mais il est capable de répondre aux exigences internationales. Il y a 6 hôtels 5 étoiles qui sont au Rwanda, qui permettent donc de répondre au plus haut niveau d'exigence des dirigeants. C'est pour ça que la FIFA y fait ses congrès. Vous avez des installations qui permettent aussi aux médias de venir et de travailler dans de très bonnes conditions. On l'a vu avec les championnats du monde de cyclisme. Et quand c'est bien mis en scène, ça vous fait une publicité internationale extraordinaire. Et là, vous travaillez ce qu'on appelle le national branding. C'est la capacité d'un pays à travailler sa marque pays et ça vous positionne. Et le Rwanda, quand on regarde sa démographie, sa puissance économique, cette stratégie, elle a un autre avantage. Elle rassure les bailleurs internationaux. C'est-à-dire quand vous êtes finalement l'Agence française de développement ou quand vous êtes un fonds des Nations unies, quand vous mettez de l'argent pour développer le pays, vous savez que vous aurez un retour sur investissement et que derrière, on aura justifié finalement les fonds dépensés. Finalement, le sport, c'est plus que du sport pour ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est un véritable outil de gouvernance politique et on commence simplement à s'en rendre compte en Europe.
Jean-Baptiste Guégan, peut-être un des derniers points qu'on voulait aborder avec vous autour de la géopolitique du sport et du foot. Moi, personnellement, je ne saisis pas très bien pourquoi est-ce que la Chine et l'Inde, qui sont deux énormes puissances démographiques, sont absentes de ce sport, comme vous le rappeliez au début, qui est peut-être le langage le plus universel qui existe. Je sais qu'à un moment, la Chine avait beaucoup d'ambition sur le foot, et on sait que quand la Chine a de l'ambition, elle a des plans, que c'est les champions du monde de la planification, que quand on planifie quelque chose, ça marche. Là, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors pour la Chine, c'est simple, hein. Quand Xi Jinping arrive au pouvoir, dès 2012, il lance un programme de développement du sport, et il dit clairement, venez financer le football, derrière, vous aurez mon assentiment. Donc tout le monde investit, l'idée c'est de plaire au pays, enfin de plaire aux leaders du pays, et de profiter des faveurs en retour. C'est par exemple Alibaba qui va payer les droits, c'est Jack Ma qu'on va voir un peu partout, et puis tous les acteurs chinois de la diaspora vont investir. C'est comme ça, par exemple, qu'un ressortissant chinois sans forcément beaucoup de moyens va acheter le Milan AC, c'est pour ça qu'on va avoir des acteurs chinois qui vont être présents partout en Europe, jusqu'au moment
qui
où...
Ils vont acheter Sochaux.
Voilà, qui ont acheté Sochaux, qui ont posé pas mal de problèmes aussi, parce qu'il y a pas mal d'interrogations sur ce qui s'est passé. Et puis 2018, crise immobilière. Le pouvoir chinois, et notamment Xi, se rend compte que l'opinion publique n'est pas forcément extrêmement favorable aux salaires dispendieux qui sont donnés aux joueurs européens qui sont venus jouer en Chine. Et du jour au lendemain, il décide que c'est fini. Donc, rapatriement en moins d'un an de tous les capitaux à l'étranger, fin des salaires extraordinaires donnés aux joueurs chinois. Du jour au lendemain, on les divise par deux. C'est une manière de marquer son territoire. Et puis derrière, arrêt complet. L'objectif, ça va être les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing.
C'est-à-dire qu'en gros, il y a un modèle économique du foot qui, quelque part, renvoyait une image...
qui pouvait être intéressante.
Mais qui pouvait peut-être renvoyer une image qui n'aurait pas forcément été bonne auprès de la société chinoise.
Exactement. Et on sait pertinemment...
Inégalité...
Le Parti communiste chinois joue énormément sur la stabilité du pays et l'impression que tout le monde avance et profite du miracle
chinois. En même temps, ouais.
Voilà. Sauf que là, le « en même temps », ça marche peut-être en France, mais ça marche pas là-bas. Et donc, à ce moment-là, il faut couper littéralement les têtes de ceux qui dépassent. C'est pour ça que le football chinois s'est arrêté. Et pour l'Inde, c'est autre chose. L'Inde, c'est une question culturelle. On est sur un sport qui s'est jamais vraiment ancré, mais qui commence à se développer, même si le sport dominant, c'est le cricket. Et on va le voir avec les Jeux de Los Angeles 2028. Il y a un format adapté, c'est le T20. C'est un format court, facile à suivre, qui est très facile à monter en télé, et qui, lui, va emmener toute la diaspora indienne, qui est l'une des deux plus importantes du monde, avec derrière des financements qui viennent de la tech américaine et de toute la diaspora indienne. Et ça, ça va être aussi un révélateur. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, vous allez investir dans le sport. Avant, on le faisait à perte.
Passionnant. En 25 minutes, on a fait le tour du monde des questions géopolitiques autour du football, condensé.
La prochaine Coupe du Monde de 2030 pour voir s'il y a une équipe chinoise, une équipe indienne, une équipe italienne, hein, s'il vous plaît.
On va faire quelques sacrifices à la rédaction pour t'aider, Annalisa.
Oui, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup de mal à la troisième Coupe du Monde sans le chat.
T'as vu, j'ai évité de poser trop de questions autour de l'Italie.
Je te remercie, tu as évité un petit scandale diplomatique. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste Guégan, de nous avoir aidé à démêler tous les fils de cette Coupe du Monde, économique, géopolitique, diplomatique, politique, évidemment,
c'était passionnant.
Autre chose derrière le football et derrière le sport en général. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez des questions à faire passer à Jean-Baptiste Guégan, on se charge de lui transmettre, donc vous n'hésitez pas à nous les écrire sous la vidéo, sous le podcast ou directement sur nos profils personnels. Mathieu Jolivet, Annalisa
Kahn. On répondra à Jean-Baptiste Guégan, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes spécialiste en géopolitique du sport, intervenant à Sciences Po et auteur de La guerre du sport avec Lucas Aubin aux éditions Talendier. Voilà, l'heure du monde, c'est déjà fini. Un grand merci et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Et bon match d'ici là.
Bon match. Salut Annalisa.
Pour leurs équipes représentées.
Au revoir à tous.
Au revoir.